pas au contraire quelque chose de positif qui est simplement parce que enfin, je veux pas être libéral à tout prix et avoir le choix en toute situation, mais c'est justement en se déterminant soi-même qu'on apprend à devenir maître de sa vie et donc à s'utiliser à votre télévisienne. Et pourquoi ne pas voir la théorie du genre comme une sorte d'aiguillon pour vraiment s'affirmer et affirmer ses positions. Ça engendre une très grande créativité artistique. Moi, j'étais assez frappé de ce fossé, cette césure qu'il y a des fois entre l'art et la vie spirituelle catholique. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des ponts à faire
Si. Moi, je pense. Mais ça présuppose, comme vous l'avez dit, cette prise de conscience de l'enjeu.
Oui, voilà.
Et c'est ça le problème. Et voilà. C'est, dans ce cas-là, oui, bien sûr. Mais justement, ça présuppose tout un décryptage et une saisie de l'enjeu. Parce que sinon, au contraire, je pense que ça, c'est pas une chance à saisir, c'est plutôt une occasion de totalement errer. Après que ça soit une invitation et une exhortation pour nous à aller plus loin dans la compréhension, ça j'en suis bien persuadé. Oui.
Vous décrivez la pensée de Pleuvre comme irriguant, comme ça, un petit peu le monde, avec les différents relais. Mais est-ce qu'une pensée comme celle-ci, en fait, elle n'émerge pas parce qu'elle est déjà un peu déjà inscrite dans les pensées du temps, dans tous les livres intellectuels, on va dire.
Ah oui.
Donc ça émerge parce que c'était déjà là. C'est pas elle qui crée quelque chose comme ça et qui le diffuse.
Ah non, oui, ça c'est sûr. Loin de moi d'imaginer que Butler est celle qui a pondu ça dans son cerveau et qu'à partir de Berkeley, ça se répand dans le monde. Ça serait évidemment absurde. Je suis entièrement d'accord. Mais je pense qu'il y a des points de cristallisation. C'est-à-dire qu'il y a des moments... Effectivement, là, c'est pour ça que j'ai parlé de Nietzsche, de Marx, de Foucault, enfin, j'en parlais, etc. Donc il y a toutes sortes d'influences très profondes, à des niveaux d'ailleurs très différents, parce que le problème de Nietzsche, pas du tout la question de sexualité. Enfin, donc, ça peut être sous des biais différents. Et qu'effectivement, il y a des mouvements de fond qui relèvent plus de l'histoire ou de la sociologie, qui sont des sujets à part entière à traiter aussi, et effectivement, qui rendent possible des pensées de ce type, parce qu'elle, évidemment, elle met en mots quelque chose qui renvoie à des expériences, mais elle cristallise, et en cristallisant, si vous voulez, elle remet dans le circuit des concepts, des questions, des attitudes, etc., qui renforcent le dispositif. Vous voyez, c'est ça qu'il faut, je pense, voir. Et je suis entièrement d'accord avec vous, il y a un effet de... C'est en boucle, hein, c'est pas du tout unilatéral. Tout à fait. Oui.
Dans cette philosophie de Butler, cette image de la pièce théâtre, elle se place comme si elle était dans les coulisses, quoi. Comme si elle ou bien les gens qui pensent comme elle, ils arrivent à voir les coulisses et du coup à être supérieur à ceux qui suivent sur leur rôle. Parce que ce qui me dérange de ce côté-là, c'est que même ceux qui suivent la théorie du genre, ceux qui cassent par exemple la procréation, une nature basée sur la procréation, etc., eux-mêmes, à leur temps, ils se basent sur des visions scientifiques et des nos jours, quoi. Donc ça, leur philosophie leur rattrape à un moment donné et peut leur mettre en échec aussi.
Oui, en même temps, je pense que justement, enfin, c'est moi qui ai utilisé tout à l'heure la métaphore des coulisses, je pense que justement, Butler ne prétend pas atteindre des coulisses qui seraient comme la vérité de la scène de théâtre, c'est que, d'une certaine manière, elle ouvre cette perspective de dire on est tous en train de jouer une pièce de théâtre. Mais si on est tous en train de jouer une pièce de théâtre, finalement, les personnages que nous sommes sont liés à des rôles, et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas créer des fêlures ou des bifurcations dans ces rôles et continuer la pièce, mais en démultipliant les possibles, justement. Et pas, donc je ne pense pas qu'elle ait la prétention... Parce que dans ce cas-là, elle se contredirait gravement et enfin, de manière assez évidente. elle ne prétend pas atteindre un au-delà de la scène sociale, parce que dans ce cas-là, elle retrouverait nécessairement une forme de métaphysique qu'elle est en train de critiquer. Donc je pense que justement, sa force est plus de rester à la surface. Mais en disant que tout est surface, du coup, on réinjecte, comme je disais tout à l'heure, des possibilités nouvelles.
Et puis quand elle critique un langage scientifique, pour dire voilà, on ne sait pas sur la nature, mais la nature et les données biologiques, c'est parce que les scientifiques ils ont été influencés pour une culture, pour un langage, pour un discours. Bah, maintenant, quand on casse la procréation, quand on dit bah, la façon naturelle de procréer, ce n'est pas la seule façon du tout, bah, on se base aussi sur des données scientifiques, sur des avancements de la science.
Oui.
Et on peut dire aussi, bah, toi aussi, tu te bases sur un discours, sur une science qui est la science moderne.
Oui, sauf que justement, la procréation médicalement assistée, sa force, c'est d'être d'abord une technique. Alors évidemment, qui manipule le vivant à partir d'une certaine connaissance. Mais là, justement, on retrouve la question de l'art, c'est-à-dire que les techniques procréatives, ce sont d'abord des techniques qui peuvent, à la limite, aboutir à l'idée ou à la conclusion qu'effectivement, on est devant un matériau que l'on peut justement agencer par des biais différents. Voyez. Et que donc, il y ait qu'un minimum de connaissances requises, ça oui. Mais justement, il y a toujours la question. Ce qui est critiqué par Butler, c'est pas tant telle ou telle approche scientifique, que plutôt l'idée que la science ici apporte une signification qui donne du sens et qui permette d'orienter l'agir humain. C'est ça, en fait. C'est qu'il y a une sorte de neutralité qui ne devient signifiante que parce qu'on projette des intérêts sociopolitiques. Alors, ça va se préciser un peu. Alors, je continue, toujours page 7, donc deuxième paragraphe. Les genres intelligibles sont ceux qui, en quelque sorte, instaurent et maintiennent une cohérence et une continuité entre le sexe, le genre, la pratique sexuelle et le désir. Donc vous voyez l'unité ici, hein. Sexe, genre, pratique sexuelle, désir. Autrement dit, ces lignes directes sont hantées par la discontinuité et l'incohérence. Notions qui ne deviennent elles-mêmes pensables qu'à partir des définitions normatives en vigueur pour la continuité et la cohérence. La discontinuité et l'incohérence sont des spectres constamment proscrits et produits par ces mêmes lois, visant à établir des rapports de cause à effet entre le sexe biologique, les genres socialement construits et leur expression ou effet conjoint dans le désir sexuel tel qu'il se manifeste dans la pratique sexuelle. L'idée qu'il puisse y avoir une vérité du sexe, comme le disait ironiquement Foucault, est précisément produite par des pratiques régulatrices qui forment des identités cohérentes à travers la matrice des normes cohérentes de genre. L'hétérosexualisation du désir nécessite et institue la production d'oppositions binaires et hiérarchiques entre le féminin et le masculin, entendu comme des attributs exprimant le mâle et le femelle. La matrice culturelle par laquelle l'identité de genre devient intelligible exige que certaines formes d'identité ne puissent pas exister. C'est le cas des identités pour lesquelles le genre ne découle pas directement du sexe ou lorsque les pratiques du désir ne découlent ni du sexe ni du genre. Découler, dans ce contexte, consiste en un rapport politique de conséquences nécessaires promulgué par les lois culturelles qui établissent et régulent la forme et le sens que prend la sexualité. C'est bien parce que certaines identités de genre n'arrivent pas à se conformer à ces normes d'intelligibilité culturelle, qu'elles ne peuvent, dans ce cadre normatif, qu'apparaître comme des anomalies du développement ou des impossibilités logiques. La persistance et la prolifération de telles identités sont une occasion critique d'exposer les limites et les visées régulatrices de ce domaine d'intelligibilité, et donc de rendre possible, dans les termes mêmes de cette matrice d'intelligibilité, des matrices concurrentes et subversives qui viennent troubler l'ordre du genre.